Très bien, bonsoir à chacun et chacune. Ça me fait particulièrement plaisir d'être avec vous ce soir pour cette série sur le disciple de Jésus-Christ et puis sur une de ses caractéristiques. Le disciple de Jésus-Christ vit dans le contentement. Est-ce que vous avez été une fois encouragé par la vie simple et heureuse de certains frères et sœurs? Personnellement, dans des moments plus difficiles de ma vie et de ma jeunesse en particulier, j'ai particulièrement apprécié de côtoyer des croyants pieux et qui vivaient dans le contentement. Cela m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous avez été aussi peut-être parfois interpellé par les pensées de votre cœur quant à la gestion de l'argent et des priorités? Personnellement, plusieurs fois, j'ai dû réfléchir à mes propres motivations dans le cadre professionnel, dans le cadre de mon logement en copropriété et dans d'autres moments de ma vie. Est-ce que vous avez peut-être même été aussi une fois choqué par les richesses de certains télé-évangélistes ou prédicateurs, par le message de certains d'entre eux qui s'éloignent franchement de l'Évangile? Cela m'est arrivé encore il y a peu. Je vous le partagerai dans le message. Et puis finalement, souhaitez-vous vivre une vie libérée de l'amour de l'argent? Eh bien, le passage que nous allons étudier ce soir nous donnera des réponses à ces différentes questions. Nous avons le plaisir, depuis quelques mois maintenant, à l'Assemblée chrétienne de Balègue, de pouvoir avoir une série suivie sur le disciple de Jésus-Christ. Nous avons débuté ceci en septembre 2019 à raison d'une prédication par mois et nous suivons un plan particulier qui est le plan d'étude proposé par William MacDonald dans son livre L'ABC du disciple que peut-être certains d'entre vous connaissent. Cet excellent ouvrage a été écrit donc par William MacDonald qui est un frère américain qui est né en 1917, décédé en 2007, auteur prolifique de 84 livres, enseignant de la Bible, professeur puis directeur d'Emmaüs Bible College aux États-Unis. Nous avons eu l'occasion donc de suivre plusieurs exposés. Et dans le premier exposé que Christian nous a donné en septembre 2019, il a défini ce qu'était un disciple. Il nous a enseigné qu'un disciple est quelqu'un qui suit la doctrine et l'exemple d'un maître. Il nous a également enseigné que le but recherché est que le disciple ressemble à son maître. Et frères et sœurs, ça peut paraître une évidence, mais je crois qu'il faut le dire et insister. Le disciple de Jésus-Christ devient disciple de Jésus-Christ, non pas par la simple imitation d'un enseignement, mais par la conversion et la nouvelle naissance. Le disciple de Jésus-Christ entre dans sa vocation en se reconnaissant pécheur, en regrettant sincèrement son péché et en demandant pardon pour celui-ci, en reconnaissant son besoin d'un sauveur, en acceptant que Jésus, lui, est le seul sauveur et en reconnaissant que par sa mort à la croix, Jésus a pris son péché et en sachant que sa vie éternelle dépend de ce salut. Le verset clé que nous pouvons citer quant aux disciples de Jésus-Christ, c'est 1 Jean 2, verset 6, qui nous dit, Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Dans cette série, nous avons eu l'occasion ensuite d'entendre Gilles Dépin sur l'enseignement radical de Jésus-Christ, Michel Recel sur l'avenir assuré du disciple, Pierre-Étienne Fister sur son engagement entier. Jean-Jacques Bourgeois sur le fait qu'il ne marchande pas avec Dieu. Cyril nous a enseigné que le disciple ne peut servir deux maîtres. Et ce soir, nous verrons ensemble que le disciple de Jésus-Christ vit dans le contentement. Nous allons lire maintenant le texte biblique qui est proposé pour ce soir dans son ouvrage que nous suivons. Donc, William MacDonald propose pour chaque thème un passage biblique en particulier. Et ce soir, c'est celui de 1 Timothée 6, versets 3 à 10, et versets 17 à 21 que nous allons lire. Je vous invite, il ne sera pas affiché à l'écran parce que je vous invite à ouvrir chacun, chacune votre propre Bible. Nous lisons dans la version Darby.
Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture de, et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et verset 17. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor en bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes, et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns, faisant profession, se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi.
Voilà, merci Fabrice pour cette lecture. Je pense que c'est important de poser un peu le contexte de cette lettre que Paul écrit à Timothée pour bien comprendre ce qu'il nous a dit dans cet enseignement. Donc, après avoir fait cette introduction à la série sur le disciple de Jésus-Christ et avoir lu le texte, nous allons maintenant voir quelques repères par rapport au texte proposé. Tout d'abord, nous allons parler du destinataire de la lettre. Souvent, nous croyons que Dieu se sert de super-héros de la foi pour accomplir son œuvre. Et puis, quand on regarde de manière claire la situation dans cet épître de Timothée, et quand nous découvrons le CV de Timothée, nous constatons qu'il nous démontre tout le contraire. Timothée a un passé difficile. Il est originaire de nulle part, de la ville de Lystre. Lystre est une ville sans issue. Une route seulement y arrive et la même route nous permet d'en sortir. Timothée fait partie d'une famille divisée. Il est issu d'une mère juive et d'un père grec. Il était alors inacceptable, même scandaleux pour une juive, de marier un grec. C'était certainement source de problèmes. Il n'est jamais fait mention de quoi que ce soit concernant son père, mais de la foi de sa mère. C'est un homme aussi qui est inattendu. Il est étonnamment jeune. Il court le risque d'être méprisé par sa jeunesse. On le voit à d'autres occurrences. On sait aussi que sa santé est fragile. Il est dans un endroit difficile. La ville d'Éphèse et son contexte, nous le verrons, sont un endroit particulièrement difficile pour la foi. Donc Timothée, qui est le destinataire de cet homme, de cette lettre, est un homme qui n'est pas un super-héros. C'est un homme originaire de nulle part, qui fait partie d'une famille divisée, qui est un homme inattendu, qui vit dans un endroit difficile. Et Timothée déjà nous apprend que d'où tu viens n'est pas aussi important que où tu vas. L'écrivain de la lettre, nous le savons, c'est l'apôtre Paul. Paul écrit cette lettre probablement depuis la Macédoine, en l'an 63 ou 64 après Jésus-Christ. Et il écrit cette lettre donc à Timothée qui se trouve à Éphèse, ville dans laquelle lui-même avait œuvré plusieurs temps. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette lettre? La raison pour laquelle il écrit à Timothée, elle est clairement mentionnée au chapitre 3 et au verset 14 et 15. Je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est le soutien et la colonne de la vérité. Donc l'objectif de Paul dans cette lettre de 1 Timothée, c'est de donner aux croyants l'instruction nécessaire pour qu'ils sachent quel est le message clé à croire, à enseigner et à défendre. Ce message doit être intégré par chaque fidèle. L'Église sera alors capable de remplir sa mission. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots de Éphèse. Où est-ce que ça se situe? On le voit pour ceux qui sont connectés sur un écran. Vous voyez donc cette carte de la Grèce et de la Turquie actuelle, et vous voyez cette ville où se situe cette ville portuaire d'Éphèse. C'est donc une cité du temps de l'apôtre Paul et qui nous occupe, une cité portuaire prestigieuse. Et puis, elle est située à la jonction naturelle des voies commerciales sur l'artère principale qui relie Rome à l'Orient. C'est un centre économique et religieux important et du temps de l'apôtre Paul, d'après les historiens, on compte environ 350 000 habitants, ce qui est évidemment un nombre d'habitants très conséquent. On va dire deux mots de la religion qui se trouve dans cette ville. C'est une ville qui est libérale. La prostitution y est très répandue. Elle est liée à ce fameux temple d'Artémis, la Diane des Éphésiens, dont il est fait mention dans d'autres passages. Et vous voyez la ruine de ce magnifique temple qui a été relativement bien conservé et que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir à droite sur le PowerPoint. On y trouve donc, en termes religieux, la révérence et l'adoration de l'empereur romain. Il faut savoir qu'en ce temps-là, c'est Néron, qui se suicidera en 68 après Jésus-Christ. Il y a cette fameuse Artémis, la Diane des Éphésiens. Il y a aussi un judaïsme qui est pollué. Il y a une synagogue dans la ville. Et puis, on nous dit aussi que c'était un centre de magie noire. Donc, la réalité spirituelle de cette ville d'Éphèse, me semble-t-il, est particulièrement similaire à la réalité spirituelle des villes ou des villages dans lesquels aujourd'hui nous vivons. Il en résulte un danger pour l'Église. On estime à peu près à 30 000 le nombre de chrétiens dans cette ville. Il en résulte donc un danger pour chacun d'entre eux. L'architecture de cette ville est luxueuse. Il y a des richesses dans cette ville. On voit encore la magnifique artère principale ici sur la photo de gauche qui nous montre ces colonnes, ces fameuses colonnes qui étaient présentes partout, et puis cette rue magnifique dans laquelle déambulaient les marchands et les passants qui passaient par ce centre régional très important. Il y a aussi un magnifique stade ou un théâtre plutôt. Un théâtre qui comptait 66 rangées et 24 500 places. Chaque année s'y tenaient des jeux importants, les ancêtres peut-être des Jeux olympiques, les Jeux panioniens. Éphèse était aussi un centre où le sport était roi. C'est dans ce contexte qu'il faut placer le texte que nous venons de lire. Et ce texte que nous venons de lire, nous pourrions l'intituler « Bon et mauvais gain ». Premièrement, du verset 3 au verset 5, nous voyons les tristes gains de la fausse doctrine. Du verset 6 au verset 8, nous voyons le véritable gain de la piété. Du verset 9 au verset 10, le gain trompeur de l'amour de l'argent. Du verset 17 au verset 19, les gains recommandés. Et enfin, du verset 20 au verset 21, les gains à protéger. Nous allons étudier ce texte de manière linéaire et je vous propose donc de commencer par cette première partie sur les tristes gains de la fausse doctrine. Dans sa lettre, Paul instruit donc le jeune Timothée dans le cadre de ses responsabilités dans l'assemblée d'Éphèse. Au chapitre 1, il enseigne sur l'Église et son message. Au chapitre 2 et 3, sur l'Église et ses membres. Au chapitre 4, il enseigne sur le bon serviteur de l'Église. Il enseigne au chapitre 5 sur la mission du serviteur dans l'Église. Et puis au chapitre 6, nous entrons dans les recommandations finales au serviteur. Et ce paragraphe décrit en particulier le faux enseignant, versets 3 à 5, sa fausse doctrine et ses fruits. Le but, c'est d'éveiller l'Église sur ce que Paul nomme des faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Ils sont dangereux et cela ne devrait pas nous étonner car Satan, leur maître, lui aussi se transforme en ange de lumière. Et le but de cette instruction est d'aider le jeune Timothée à détecter ces faux enseignants dans l'Église primitive. Oui, le danger est réel. Et l'objectif de Paul en écrivant cette lettre à Timothée est également mentionné au chapitre 1, au verset 18 et 19. Il faut que Timothée persévère, qu'il combatte le bon combat, qu'il garde la foi, qu'il garde une bonne conscience. Sans cela, Timothée risque de faire naufrage par rapport à la foi. Et frères et sœurs, je crois aussi qu'aujourd'hui, certains croyants évangéliques risquent de faire naufrage à la foi si ils ne prennent pas garde aux enseignements de la parole de Dieu et aux enseignements particulièrement que nous retrouvons dans cette première lettre de Timothée. Au verset 3, nous découvrons la marque des faux enseignants. Ils enseignent autrement, ils enseignent de fausses doctrines. Et le passage débute par si quelqu'un enseigne. Si quelqu'un, eh bien, confirme la présence à Éphèse de faux enseignants. Et nous les retrouvons au chapitre 1, au verset 3, au verset 4, au verset 6, au verset 7, au verset 20 et au chapitre 4, versets 1 à 5. Ces faux enseignants sont bien présents dans l'Église. Et le premier élément qui doit éveiller l'attention de Timothée, c'est ce qu'ils disent. Leur enseignement, ils enseignent autrement, autrement. Il doit donc savoir, Timothée, quelle est la véritable doctrine pour détecter que les enseignants enseignent une autre doctrine, les faux enseignants. Ils enseignent un enseignement qui est contraire à la révélation scripturaire de Dieu. Ces faux enseignants ne se rangent pas à de saines paroles. Ils sont frontalement opposés à l'enseignement de Jésus-Christ. Ils sont continuellement, le terme grec utilisé ici, le temps grec et le terme utilisé nous parlent vraiment de continuité dans leur comportement et ils sont continuellement opposés et en désaccord avec des paroles qui sont saines. Quelles sont les paroles saines? Les paroles saines, nous dit le verset premier, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celles de Jésus-Christ qui sont les paroles saines. Et il s'agit de l'ensemble du message de Jésus-Christ qui est révélé dans l'Écriture, c'est la parole de Christ. Et c'est de cette parole que provient l'enseignement salutaire par lequel le chrétien peut croître. La doctrine qui est selon la piété, elle est aussi mentionnée dans ce verset 3. Et un bon enseignement doit conduire à la piété. Qu'est-ce que la piété? Un terme qu'on utilise, mais qu'on définit peut-être pas toujours. Ça vient de Eusebia, qui signifie référence ou ressemblance à Dieu, vénération faite d'affection et de respect envers Dieu. Le Seigneur réclame de nous un élan du cœur, un don de l'être tout entier, au lieu d'une religion formaliste. Voilà la définition que René Pache donne dans son excellent dictionnaire. La piété, c'est une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu. Aujourd'hui, qui sont les faux enseignants? Eh bien, frères et sœurs, si nous regardons à l'état de la chrétienté, il me semble que nous pouvons détecter quelques-uns. Les faux enseignants, aujourd'hui, affirment des erreurs au sujet de la personne de Dieu, de sa nature et de ses attributs. Ils minimisent, par exemple, également le besoin d'un sauveur. Certains insistent sur les capacités de l'homme qui est pourtant totalement dépravé. D'autres surinsistent sur certains dons du Saint-Esprit, forçant ou contrefaisant ces œuvres du Saint-Esprit. D'autres encore nient l'autorité infaillible de la parole de Dieu, son inspiration, son autorité, sa pertinence aujourd'hui. Voilà qui sont les faux enseignants aujourd'hui. Ils s'attaquent à la personne de Dieu, ils s'attaquent à la pleine suffisance de Christ, ils s'attaquent au ministère du Saint-Esprit, ils s'attaquent à l'infaillibilité, à l'autorité de la parole de Dieu. Et l'attitude des faux enseignants, au verset 4, il nous est dit qu'ils sont enflés d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Ils ont un ego démesuré. Ils se placent au-dessus de la parole de Dieu. Ils usurpent l'autorité de Dieu. Il nous est dit aussi au verset 4b, leur mentalité, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots. Ils ne savent rien. Ils prétendent savoir, mais ils ne savent pas, parce que leur sagesse, c'est la sagesse des hommes, ce n'est pas celle qui vient d'en haut. Ce n'est pas celle, leur sagesse, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique, nous dit Jacques 3, verset 15. Et ces gens, ces faux enseignants, ils ont la maladie des questions. Et le terme ici désigne de vaines hypothèses. Ils ont la maladie aussi des disputes de mots, traduit autrement par bataille de mots. Ils ergotent sur la terminologie, ils se gargarisent de différentes théories au lieu d'étudier la parole de Dieu et de s'y soumettre. Les faux enseignants, encore, on voit les fruits qu'ils produisent. Jésus dit du reste en Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, regardons leurs fruits. » Et ici, dans le verset 4, à la fin du verset, et dans le verset 5, on voit que de leur verbiage découle l'envie ou la jalousie. C'est le fait d'être mécontent, par exemple, de la popularité de quelqu'un d'autre. De leur verbiage découlent les querelles, les disputes, les paroles injurieuses ou les calomnies, les mauvais soupçons, c'est-à-dire prêter de mauvaises intentions à quelqu'un, les vaines disputes, des disputes sans fin. L'état des faux enseignants, le verset 5 nous dit que leur entendement, ils sont corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. C'est des hommes qui sont corrompus dans leur entendement. Ça veut dire que leur intelligence n'est pas renouvelée. Elle est donc totalement pourrie. Et seule une intelligence renouvelée leur permettrait de comprendre la volonté de Dieu, comme nous le voyons dans le début du chapitre 12 des Romains. Ils sont privés également de la vérité. Quelqu'un ou quelque chose les a éloignés de la vérité. Et puis, quelle est leur visée et quel est leur but finalement à ces faux enseignants? Ils estiment que la piété est une source de gain. Ils se vêtissent de la piété comme d'un habit, mais à l'intérieur, tout est pourri. Leur but, c'est l'argent. Et ils espèrent que leur prétendue piété les enrichisse. Voilà, reconnaissez-le avec moi, le portrait de ces faux enseignants qui étaient présents dans l'église d'Éphèse ou dans ses alentours et qui aujourd'hui également sont certainement encore présents dans l'église avec un grand E. Le véritable gain de la piété. Nous passons maintenant à la deuxième partie de ce passage du verset 6 au verset 8 et ce paragraphe nous enseigne ce qui est finalement le véritable gain. Paul met ici en perspective la brièveté des richesses temporelles. Il interpelle le croyant à mener une vie simple. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. C'est quoi le véritable gain? La piété. Et quand elle est mêlée au contentement, c'est effectivement un grand gain. La piété des faux docteurs ici, elle est factice, elle est de circonstance. C'est une façade pour s'enrichir dans le cadre du ministère. Par contre, la piété du vrai croyant, elle est sincère. La piété, c'est, comme on a pu le voir dans notre définition avant, c'est la révérence ou la ressemblance à Dieu. Le terme contentement signifie autosuffisance. Et ce terme est utilisé pour désigner le flegmatique, celui que les circonstances extérieures n'atteignent pas et qui réagit bien à son comportement et à son environnement. Le contentement, c'est d'être satisfait et rien vouloir de plus que ce que l'on a déjà. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple de contentement que celui de l'apôtre Paul? Je vous invite à lire Philippiens 4 au verset 11 à 13, où Paul est emprisonné, il est enchaîné et il écrit cette lettre aux Philippiens. Dans cette lettre, il déclare, au chapitre 4 et au verset 11, Car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Et les circonstances de Paul à ce moment précis, c'est la prison. Je sais être abaissé. Je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations, je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Quel message magnifique d'un prisonnier! Quel message magnifique puisse-t-il sortir de nos bouches si nous passons par la maladie, par les difficultés? Et certainement que ce soir, plusieurs qui écoutent sont dans des difficultés, peut-être de maladie, peut-être des difficultés de couple. Peut-être des difficultés de travail, peut-être des situations économiques très difficiles à cause de ce qui s'abat sur les pays occidentaux. Eh bien, l'apôtre Paul pouvait dire depuis le fond de sa prison, Moi, j'ai appris à être content dans moi, en moi-même, dans les circonstances où je me trouve. Eh bien, que cela puisse être notre part. En effet, le croyant tire sa satisfaction de Dieu. Il est confiant que Dieu supplera à tous ses besoins selon ses richesses en gloire. C'est en Dieu et en Dieu seul que le croyant peut trouver son bonheur, sa joie et sa vraie richesse. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes convaincus ce soir que Dieu est tout ce que nous avons besoin? Nous n'avons rien besoin d'autre que lui. Dieu est ce que nous avons besoin. Dieu est suffisant. Et marcher dans le respect de ce Dieu-là et cultiver le contentement, voilà le vrai gain. Au verset 7, nous lisons, Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le véritable gain nous aide à ne pas nous concentrer sur les richesses temporelles. Nous n'avons rien. Le texte, du reste, en grec, commence par rien. Nous n'avons rien. L'apôtre insiste sur le fait que quand nous venons au monde, nous n'avons rien. Et quand nous repartirons de ce monde et que nous serons enterrés dans un cercueil en bois, nous n'emporterons rien non plus, frères et sœurs, avec nous. Et j'aime beaucoup cette image que William MacDonald cite dans son livre sur l'ABC du disciple. Il cite l'exemple d'Alexandre le Grand, qui avait demandé qu'à sa mort, ses mains soient laissées visibles, ouvertes et vides. Il avait conquis le monde, mais à sa mort, il n'a rien emporté avec lui. Job le dit tellement bien dans son chapitre 1 et dans son verset 21, Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu. Je retournerai dans le sein de la terre. Frères et sœurs, ce passage nous interpelle. Combien d'énergie consacrons-nous durant 40 ou 50 ans de notre vie aux richesses temporelles? Et qu'est-ce qu'en regard de l'éternité? Certes, nous sommes appelés à être des bons gestionnaires, mais mettons-nous notre énergie sur les bonnes priorités? Jésus, en Matthieu 6, verset 20, nous enseigne à amasser des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Finalement, le véritable gain nous aide à mener une vie simple. Paul au verset 8, dit, mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Paul ne condamne pas la possession de biens. C'est Dieu qui pourvoit et qui donne toutes choses selon sa grâce. Mais ici, ce que Paul condamne, c'est l'insatisfaction. Même riche en richesses matérielles, un cœur qui n'est pas régénéré sera insatisfait. Paul nous encourage à être satisfaits si nos besoins fondamentaux, comme la nourriture ou bien le vêtement, sont remplis. Une vie simple implique qu'on accepte ce que Dieu nous donne et qu'on évite la convoitise. Le croyant doit avoir pour but dans la vie d'aimer et de glorifier Dieu, non pas d'accumuler des biens matériels. Et si, par hasard, ou si d'une quelconque manière Dieu nous bénit avec des richesses, nous devons les gérer avec la même motivation. Aimer et glorifier Dieu avec ce qu'il a placé entre nos mains. Nous arrivons sur le troisième paragraphe de ce texte que nous étudions ce soir, qui traite du verset 9 au verset 10, le gain trompeur de l'amour de l'argent. Il nous montre, ce paragraphe du verset 9 au verset 10, que l'amour de l'argent est un péché dangereux avec des effets dévastateurs. C'est un piège qui peut nous amener à des désirs insensés au jugement éternel, et puis surtout, il représente un grand danger pour notre foi. Verset 9 nous dit, Or à tous ceux qui veulent devenir riches, ils tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux. Le gain trompeur, frères et sœurs, c'est un piège. Et encore une fois, ce n'est pas la richesse qui est condamnée, mais l'amour de l'argent. Et ici, il est dit ceux qui veulent devenir riches. Il y a donc un désir délibéré dans leur cœur, un désir bien établi qui est né de la raison et non d'une émotion. Il décrit clairement ceux qui sont coupables du péché de cupidité. Et vouloir être riche, nous enseigne ce passage, c'est tomber dans la tentation et dans un piège qui nous est tendu. Et au chapitre 3, au verset 17, il nous est dit cette même épître de Timothée que le diable, il nous tend des pièges, il rôde autour de nous. Et le verbe désigne ici non pas une chute accidentelle, mais une chute continuelle qui montre que le comportement de ces gens-là est caractérisé par l'amour de l'argent et par le désir de devenir riche. Allons-nous, frères et sœurs, être capables d'éviter ce désir qui n'a pas sa place. William MacDonald, si vous l'avez lu, vous savez que c'était quelqu'un de très clair, de très tranché, et il dit, La convoitise nie le véritable but de l'existence, et la cupidité contrecarre le plan de Dieu pour l'évangélisation du monde. Il dit même dans son commentaire, Parfois, cette cupidité se cache sous des thèmes respectables comme bonne gestion financière, épargne ou prévoyance. Le gain trompeur, il amène à succomber à des désirs insensés. Verset 9b, il tombe donc dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux. C'est des désirs qui sont stupides et celui qui tombe dans ce comportement est caractérisé par la cupidité, il est irrationnel, il est absurde, il est illogique. Parce que cette soif de posséder, elle est complètement irrationnelle. Elle est absurde et illogique quand nous plaçons notre perspective sous la vue de l'éternité. Et ces désirs aussi sont pernicieux ou néfastes parce qu'ils conduisent à l'opposé du vrai bonheur, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la joie de la présence de Dieu. Et la cupidité est même un péché qui appelle d'autres péchés, et c'est aussi en cela qu'il est dangereux. Il appelle d'autres péchés de nature matérielle, voire même sexuelle. Dans les deux cas, c'est une idolâtrie qui ruine des mariages, qui divise des églises, qui fait souffrir des enfants. Et MacDonald a même intitulé ce chapitre que nous traitons aujourd'hui sur le contentement, le péché que personne ne confesse. Le gain trompeur, finalement, à la fin du verset 9, mène au jugement éternel. ces désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Plongent, c'est-à-dire qu'ils s'enfoncent, ils les entraînent vers le fond, vers la ruine, vers la destruction du corps et vers la perdition, la ruine de l'âme éternelle. Et l'avertissement est sévère. Eh bien, pensez à l'exemple de Judas. Judas a eu son corps et son âme qui ont été détruits par l'amour de l'argent. Et frères et sœurs, ce passage m'interpelle d'une manière particulière parce qu'il montre un comportement caractérisé. Et nous devons tous faire attention qu'une petite pensée ne devienne pas une habitude et qu'elle ne devienne pas finalement un comportement caractérisé. L'écrivain anglais William Makepeace Thackeray écrivait: Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Attention, nos pensées non confessées peuvent nous amener à une action. Nos actions irréfléchies, continuelles, peuvent amener des habitudes non confessées, non remises à Dieu, peuvent devenir un caractère, et un caractère peut conduire à un destin. Enfin, au verset 10, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. L'amour de l'argent est un grand danger pour la foi. C'est l'amour de l'argent, on l'a déjà dit, qui est condamné, et c'est une racine qui peut s'incruster profondément dans notre être, et de laquelle peut venir toutes sortes de maux. Et les maux peuvent être variés, parce que l'amour de l'argent conduit à plusieurs péchés, par exemple à la satisfaction de caprices, à l'orgueil, à l'injustice, à l'avarice même, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, tout pour moi, rien que pour moi, je pense à moi. Peut-être même cela nous conduira à tricher, à voler, et pire encore, à tuer, et même à profiter du pauvre. L'apôtre mentionne dans son texte qu'il y a quelques-uns, il ne nomme personne, mais plusieurs à Éphèse sont tombés dans ce piège. Ils se sont égarés, même détournés de la foi. Et la foi ici, comme en Jude 3, décrit l'ensemble des vérités chrétiennes. Étaient-ils déjà dans la foi? Et c'est les richesses qui leur ont fait se détourner de la foi, c'est peut-être une option. Ou bien étaient-ils seulement des chrétiens de nom qui se sont définitivement éloignés de la foi? Je ne veux personnellement pas trancher sur cette question, mais vous découvrirez dans les commentaires bibliques plusieurs interprétations à ce sujet. La question est intéressante. Leur âme est tourmentée et dans la douleur car leur conscience les accuse. L'amour de l'argent les consume et leur désir inassouvi crie. L'insatisfaction et le désillusionnement est leur lot. Nous arrivons à l'avant-dernière section de notre passage, les gains recommandés du verset 17 au verset 19. Et dans ce paragraphe, Paul va faire quelques recommandations. Il va encourager les riches à avoir une bonne attitude vis-à-vis de leur richesse et à affirmer leur caractère chrétien dans la manière avec laquelle ils gèrent ce que Dieu leur a confié. Et dans l'optique de Paul, et ça c'est quelque chose de très important, être riche, c'est avoir plus que le nécessaire pour manger et se vêtir. Donc frères et sœurs, d'une certaine manière, ça nous concerne tous. Car même nous, si nous sommes étudiants ou apprentis, je présume que nous avons plus que simplement le vêtement et la nourriture. Et d'une manière générale, ce passage, on pourrait dire, il concerne certainement une grande partie de l'Occident. Au verset 17, nous lisons: Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir, qu'il fasse du bien. Il y a des pièges à la richesse. Le premier danger pour les riches, c'est d'être orgueilleux ou hautain. Ah, entretenir des pensées hautaines. Moi, je l'ai. Moi, je suis meilleur que les autres. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Et je me compare à mon voisin qui a ceci ou qui a cela en moins que moi. Et naissent ainsi dans ma tête des pensées qui sont hautaines. Et ceux qui sont riches sont tentés de regarder de haut ceux qui sont moins favorisés. Et vous savez que cet enseignement dans cette première épître à Timothée est révolutionnaire parce que la culture grecque méprisait l'humilité au profit d'une fierté outrancière. Et Paul donne un enseignement qui est complètement contre-culturel, ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains. C'était être nettement différent des gens qui les entouraient. Le deuxième danger, c'est de mettre leur espérance dans des richesses incertaines plutôt qu'en Dieu. Plutôt que de se confier dans les richesses, le croyant doit placer son espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous offre plus de sécurité que tout investissement terrestre, et c'est particulièrement vrai par les temps qui courent. Oui, Dieu nous invite à nous réjouir de tout ce qu'il nous donne libéralement. Au verset 18, nous lisons qu'il soit riche en bonnes œuvres et qu'il soit prompt à donner libéraux les gains recommandés. Premièrement, il est demandé ici aux riches de faire du bien, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser leur vie et leur richesse pour accomplir des œuvres qui sont bonnes et qui sont nobles. Deuxièmement, ils doivent être riches en bonnes œuvres, c'est-à-dire abonder en bonnes œuvres en faveur d'autrui. Alors c'est sûr que le croyant doit d'abord subvenir aux besoins de sa famille peut-être même plus large. Et dans certaines cultures, c'est quelque chose d'encore plus important que chez nous. Il doit être sensible aux veuves, on le voit au chapitre 5 et au verset 4 de ce même livre. Et les veuves étaient une classe sociale particulièrement défavorisée, puisque le pilier principal qui ramenait l'argent et la nourriture à la maison était décédé. Ils doivent subvenir aussi aux besoins des enseignants de la parole de Dieu, nous enseigne le chapitre 5 et le verset 17. Et finalement, on trouve ça dans Actes 4 et au verset 34, ils devaient subvenir aux besoins de tout croyant dans le besoin. Troisièmement, les riches ici, dans ce passage, doivent avoir de la libéralité, faire preuve de libéralité, c'est-à-dire être généreux, prodigue. Comme les Macédoniens dont Paul fait l'éloge en 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4, et qui font preuve d'une très grande générosité. Être libéraux, ça veut dire être généreux, être bienfaisant. Et au verset 19, nous lisons, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Eh bien, Paul ici invite à considérer la suite des gains recommandés, les suites à considérer, les gains recommandés. Il invite les riches à considérer le résultat final que produira une bonne gestion de leurs biens matériels. En les partageant, ils s'amassent pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, contrairement aux richesses éphémères que nous pouvons avoir ici-bas et qui sont soumises à une grande fragilité. Ceux qui investissent ainsi, en vue de l'éternité, démontrent qu'ils ont saisi ce qu'est vraiment la vie. Les croyants doivent vivre leur vie à la lumière de l'éternité. Et MacArthur, dans son commentaire, cite: Les chrétiens devraient investir leur argent dans les âmes d'hommes et de femmes qui seront là pour les accueillir et les remercier à leur arrivée au paradis. Nous terminons l'étude de ce passage par les versets 20 à 21, les gains à protéger. Et dans ce dernier paragraphe, Paul adresse une recommandation personnelle à son fils spirituel Timothée. Il l'invite à garder précieusement ce qu'il a reçu, c'est-à-dire la vérité. Dans le verset 20, il dit: Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié. Et il y a ce terme, ô, qui veut dire chair aussi, qui est traduit ailleurs par chair. Cette expression reflète toute l'émotion associée à cette exhortation par Paul, à son bien-aimé fils dans la foi, pardon. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce cher Timothée, ô Timothée? Il lui dit: garde ce qui t'a été confié. Conserve, et le sens est conserve ces objets de valeur en lieu sûr. Plusieurs d'entre vous connaissent ma profession. Vous savez que nous vivons des temps aujourd'hui particulièrement difficiles et sans surprise, beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent à garder des trésors alors que les richesses de ce monde éphémère s'effondrent pour avoir peut-être un peu une illusion d'avoir quelque chose qui aura plus de valeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent acheter de l'or parce qu'ils ont l'impression qu'en les mettant dans un safe ou dans un coffre, ils seront bien et à l'abri de toute dépréciation et de tout problème économique. Eh bien, garde le bon dépôt ici, c'est conserve ces objets de valeur en un lieu sûr, comme mettre un kilo d'or dans un safe ou dans un coffre. Le dépôt à garder ici, c'est la vérité. Et Kelly dit, on suggère ici que le message chrétien n'est pas quelque chose que le ministre de l'Église élabore par lui-même ou auquel il est autorisé à ajouter quoi que ce soit. Il s'agit d'une révélation divine qui lui a été confiée et qu'il a le devoir de transmettre intacte à autrui. Verset 20b, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Pour protéger ce gain, il faut qu'il fuie, il faut qu'il se détourne des discours vains ou vides, profanes, c'est-à-dire qui sont contraires à la vérité. Il doit également fuir l'opposition de la connaissance. Et puis enfin, au verset 21, il est dit de laquelle quelques-uns faisant profession se sont écartés de la foi. La fin de ceux qui écoutent les faux docteurs. Et ici, il est mentionné en particulier les gnostiques qui savaient beaucoup de choses, qui mélangeaient le christianisme, un peu de mysticisme oriental, de philosophie grecque et de légalisme judaïque, qui étaient visiblement des grands discoureurs. Eh bien, certains ont écouté ces faux docteurs et se sont détournés de la foi parce qu'ils ont suivi ces mauvais docteurs. Timothée, il a donc une responsabilité dans ce contexte particulier de garder la vérité intacte face à ces discours vains et profanes des gnostiques. Et au verset 21b, cette magnifique conclusion, que la grâce soit avec toi. Qu'est-ce qu'on a comme plus grand besoin pour protéger ce gain magnifique de la vérité que nous avons eu la chance de se voir confier? Eh bien, nous avons besoin pour garder le bon dépôt, pour garder la vérité intacte, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. J'aimerais rapidement, et pour conclure, tirer quelques applications pratiques de ce que nous venons de voir ensemble. Les tristes gains de la fausse doctrine, c'était notre premier paragraphe. Le chrétien aujourd'hui doit faire face aux faux enseignants. Et comment peut-il faire face aux faux enseignants? Le chrétien doit d'abord écouter ce qu'ils enseignent. Ce n'est pas la planche que vous avez sous les yeux. Il doit aussi observer leur comportement, leurs fruits et leur rapport à l'argent. Et frères et sœurs, je tremble parce qu'il y a encore quelque temps, quelques mois en arrière, je voyais un prédicateur suisse bien connu qui prenait en vidéo le hangar où se trouvaient 3, 4 ou 5 jets et avions privés de Kenneth Copeland, qui est un prédicateur qu'on appellera de la prospérité, et qui montrait ainsi ses richesses à ce prédicateur suisse qui était bêtement ébahi, qui n'a rien trouvé mieux que de publier ceci sur sa page Facebook. Frères et sœurs, observons le comportement des faux docteurs, observons, écoutons leurs enseignements, observons leur comportement, leurs fruits, leur rapport à l'argent, ça nous en dira beaucoup. Comparons leur enseignement avec l'enseignement de la Bible. Ayons l'attitude des Béréens qui examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Ne manquons aucune occasion pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ce temps de confinement que nous vivons aujourd'hui nous donne des temps particuliers, plus calmes, où nous pouvons écouter la parole de Dieu, où nous pouvons la lire, où nous pouvons l'étudier personnellement. Il y a de multiples possibilités aussi d'être enseigné. Je pense particulièrement aux jeunes. Adrien Grosdidier a mis sur place, ceux qui le connaissent, contactez-le, une série pour les jeunes durant ces temps de confinement, tous les soirs entre 20h et 22h. Je crois qu'il y a plus de 80 jeunes qui participent à ces enseignements 2 à 3 fois par semaine. Eh bien, voilà une occasion pour ne manquer aucune occasion pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vivre dans le contentement face au véritable gain de la piété. Vivre dans le contentement, eh bien voilà, j'ai inversé les deux choses là. C'est vivre pieusement, c'est chercher notre satisfaction en Dieu, c'est vivre effectivement dans le contentement, remercier Dieu de pourvoir à nos besoins fondamentaux, et c'est être les gestionnaires avisés de ce que Dieu nous donne comme richesse supplémentaire à nos besoins fondamentaux. Nous avons plus que les besoins fondamentaux. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne en plus? Est-ce que nous savons vivre aussi dans le contentement? Est-ce que nous remercions Dieu pour nos besoins fondamentaux? Est-ce que vraiment nous cherchons notre satisfaction en Dieu? Est-ce que c'est ça notre moteur lorsque nous nous levons chaque matin? Est-ce que nous avons vraiment ce désir de vivre pieusement? Vivre libre du désir de posséder toujours davantage, voilà une application pratique. Et comment est-ce que je peux le vivre? Je peux réaliser que tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Je peux entretenir un cœur reconnaissant. Je peux aussi, chose importante, apprendre à faire la distinction entre mes désirs et mes besoins. Et puis, quel que soit mon salaire, je peux apprendre à dépenser moins que je ne gagne. Je peux aussi abonder dans les bonnes œuvres et je peux faire des sacrifices pour le Seigneur. Le sacrifice de nos biens est une louange aussi pour Dieu. Comment puis-je garder le bon dépôt? Il faut d'abord que je sois conscient d'avoir que j'ai un trésor entre mes mains, la parole de Dieu, la vérité. Et je suis interpellé pour garder ce trésor intact face au faux docteur. Et comment puis-je le faire? Eh bien, je vous suggère qu'il y a peut-être des pages, des sites de l'une ou l'autre église ou bien de l'un ou l'autre prédicateur que je vous invite plutôt à fuir parce que ils sont peut-être des discoureurs vains et profanes. Il y a quantité de bonnes choses, mais il y a aussi quelques mauvaises choses. Et puis finalement, vous et moi, pour garder ce bon dépôt, pour garder cette vérité intacte, nous avons besoin d'être conscient que notre plus grand besoin, c'est la grâce de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, ce texte sur le disciple de Jésus-Christ qui vit dans le contentement nous invite à marcher avec le désir de faire face aux faux enseignants. Peut-être ils se donnent l'allure de la piété, peut-être, mais nous devons les fuir. Apprenons à vivre dans le contentement, heureux de ce que Dieu nous donne. Vivons libérés du désir de posséder toujours davantage et surtout, gardons le bon dépôt. Cela est possible en comptant sur la puissance du Saint-Esprit et sur la grâce de Dieu. Parce que sans la vie de l'Esprit en nous, nous ne sommes pas capables de vivre ces vérités. N'oublions pas que le but de la vie n'est pas de posséder, mais d'aimer et de glorifier Dieu. Et celui qui vit dans le contentement, ne glorifie-t-il pas Dieu? N'aime-t-il pas Dieu? Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Merci à tous de votre attention.